première invitée, Madame Lydie Dubuisson, en plus d'être associée artistique au Black Theatre Workshop, c'est une créatrice de théâtre, une auteure dramatique, une metteur en scène et conteuse. Il faut savoir qu'elle a terminé ses études de théâtre avec distinction à l'Université Concordia. Ses projets artistiques explorent différents secteurs d'activité tels que l'intersectionnalité, les réalités dystopiques, la mémoire collective et les univers ritualisés. Alors, nous allons découvrir aujourd'hui qui elle est et en plus, nous allons parler de la lecture de sa nouvelle pièce et que je garde sous le couvert, hein, sous la marmite, que le couvercle de la marmite pour l'instant. Elle va nous raconter tout ça de toute manière. Madame Lydie Dubuisson, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va très bien, merci. Merci pour l'accueil chaleureux, merci.
Mais avec plaisir. Mais écoutez, je sais aussi que votre papa écoute.
S'il écoute, bonjour papy, j'ai réussi. J'ai réussi papy, je suis à Radio Centre-Ville.
Non, c'est Alex m'a glissé un petit mot là-dessus hier et puis je me suis dit...
Ceux qui ont grandi à l'extérieur de la ville de Montréal, trouver le bon stationnement pour pouvoir trouver l'angle dans la voiture, écouter Radio Centre-Ville, on l'a réussi, on le faisait à chaque dimanche. Donc vraiment, ça fait plaisir de pouvoir être avec vous.
Et bonjour à votre papa.
Bonjour, Wessner Dubuisson.
Voilà. Alors, écoutez, dites-nous en quelques mots qui vous êtes. Où est-ce que vous êtes née, premièrement?
Oh là là. Alors, moi, je suis celle qui est née à Montréal de toute ma famille. Ma famille est arrivée d'Haïti dans les années 70. Alors, moi, je suis née à Montréal, à l'hôpital Sainte-Justine. Et ensuite, on a quitté l'île de Montréal avant même que j'ai 5 ans, on était sur la rive sud. Mm-hmm. Et donc, moi, j'ai vraiment grandi et évolué plutôt sur la rive sud de Montréal, à une petite ville qui s'appelle Mercier. Et donc, c'est ça. Donc, une petite famille haïtienne qui on a été brisée des murs sur la rive sud pour partager la culture, quoi.
D'accord. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous a amené vers le théâtre?
Le théâtre, c'est un long chemin, hein, parce que surtout que c'est un médium qui semble beaucoup appartenir à l'autre. Par contre, je dois quand même réaliser que il y avait une très forte impression à la maison du théâtre, mais via seulement vidéocassette. On recevait constamment des cassettes de Languichat. Et ça m'avait toujours un petit peu impressionnée parce que je savais que ça se passait sur scène, mais c'était pas quelque chose qu'on voyait beaucoup, qu'on voyait presque pas du tout au Québec, surtout des Noirs en français. Donc, le théâtre a été quelque chose qui est venu beaucoup plus tard. Moi, j'ai grandi dans une église évangéliste très, très, très conservatrice. Donc, la musique était ce qui m'a attirée en premier. Puis, de là, au fil en aiguille, au secondaire, on se permet de faire quelques petites expériences. Et j'ai vraiment une fascination. Je me sens confortable dans l'arrière-scène, être dans les coulisses, les rideaux, la préparation, la fertilité de préparer un spectacle beaucoup plus que le spectacle lui-même. Puis avec les années, on fait des rencontres. Donc, quand j'ai quitté le foyer familial et que je suis venue m'installer à Montréal, là, j'ai rejoint le People's Gospel Choir of Montreal. Mm-hmm. Et de là, j'ai rencontré beaucoup de musiciens avec qui je faisais des projets par-ci, par-là. Mais de là, j'ai commencé à faire de la comédie musicale. Donc là, j'ai fait des comédies musicales avec des troupes communautaires. Et de là, de fil en aiguille, éventuellement, j'ai eu un gig avec le Black Theatre Workshop. Mais ça, c'était en 2004. Et ça m'avait impressionnée parce que jusqu'à cette rencontre-là, moi, j'avais toujours été la seule femme noire dans le projet. Ah, c'est la fille noire qui va interpréter la section noire du projet. Mais là, je suis arrivée pour ce gig-là, pour un enregistrement, et là, j'ai réalisé qu'il y avait un directeur noir, que les acteurs étaient tous noirs, que la création... Donc, c'était vraiment de réaliser qu'il y avait également de la place pour de la création noire et des histoires racontées d'un point de vue qui m'appartenait beaucoup plus que d'essayer de trouver un moyen de m'infiltrer dans la communauté en essayant de trouver des rôles pour qui me ressemblaient. Et à l'époque, c'était vraiment juste trouver des rôles parce que l'idée de devenir créatrice, ça a pris encore beaucoup. Il fallait fallait briser encore plus de murs pour moi avant que je réalise que, j'ai le droit d'être derrière le bureau et d'être celle qui écrit et d'être celle qui fait de la mise en scène. Je ne suis pas obligée d'être simplement une entertainer. Donc, c'est vraiment, c'est de faire le chemin, de faire les rencontres qui nous donnent confiance en nous. Mais à l'époque, je crois que si jamais je retourne à la Lydie de 17-18 ans qui essaie de chercher et de trouver qu'est-ce qu'elle va faire de sa vie, je n'osais même pas rêver de vivre la vie que je vis aujourd'hui. C'était vraiment, essaie de survivre et d'être indépendante, puis si tu peux continuer à en faire en tant que passe-temps. Puis de là, ça a pris de l'ampleur et de l'ampleur jusqu'à ce que j'ai été faire mes études pour être où est-ce que j'en suis aujourd'hui.
Et nous avons un ami, un artiste en commun, hein, puisque vous avez travaillé sur son show à la Place des Arts.
Ah, Jeanne Joël.
Oui, qui a une voix absolument magnifique.
Quel artiste merveilleux. C'était vraiment une belle expérience de travailler avec Joël Janis.
D'accord. Est-ce que c'est vous dans la vidéo?
Non. Moi, je suis, encore une fois, je suis les coulisses. Moi, je reste en arrière. J'ai eu mes années sur les planches, mais j'ai vraiment beaucoup plus de plaisir à être backstage. Donc, si jamais, les images qu'on voit beaucoup circuler sont Marie-Reine Kabacha et Shelby, oh mon Dieu, petite, moi, j'ai oublié son nom de famille, mais des merveilleuses artistes locales qu'on a mis en scène sur la merveilleuse musique de Joël. Oui, des bons souvenirs dans le temps où on pouvait faire des spectacles.
J'écoute déceler « Mon Dieu, petite moi ».
Oui, j'ai oublié le nom de Shelby, c'est pour ça.
D'accord. Ok, non, mais écoutez, on...
Ça permet de plus en plus de pouvoir... Je me permets de laisser mon répertoire sortir.
D'accord.
Avant, je me serais censurée beaucoup plus qu'actuellement. C'est le mood du moment.
OK. Alors, écoutez, si on change, on laisse de côté un peu l'aspect biographique, parlons de cette fameuse rencontre qui a amené à votre choix en tant que directrice et associée.
Associée.
Oui. Au Black Theatre Workshop. Racontez-nous rapidement comment ça s'est fait.
À vrai dire, je crois que ce qui s'est passé avec le Black Theatre Workshop, c'est que j'étais tellement déterminée à éventuellement entrer dans ce réseau-là. Parce que comme que j'ai dit, en 2004, quand j'ai découvert que cette compagnie-là existait, ça a été un petit peu le moteur qui a dit un jour, tu reviens, tu appliques, tu t'impliques, et il faut que je sois bien équipée pour pouvoir vraiment bien faire partie de ce réseau-là. Parce que franchement, chaque fois que j'allais voir une production de Black Theatre Workshop, ça me confirmait que cette compagnie-là a un mandat qui honore ce que j'ai envie de faire. Mmh. Et dès que j'ai quitté l'université, le premier réflexe que j'ai eu, ça a été d'appliquer pour un mentorat avec le Black Theatre Workshop. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai été acceptée, donc j'ai pu commencer à développer mes textes avec eux. Et ce qui est fantastique avec ce réseau-là, c'est que lorsque Quincy décide que, bon, je reconnais le talent de cet artiste-là, le support est vraiment réel, de la part des artistes, de la part de tout l'équipe de soutien qui fait déjà partie de la compagnie depuis quand même déjà 50 ans. Hein, c'est 50 ans que ce réseau-là se construit. Puis moi, à chaque fois que j'entendais parler de quelque chose qui m'intéressait, j'appelais Quincy, disais, est-ce que je peux m'asseoir dans la salle? Est-ce que je peux juste... Donc, ils ont toujours été conscients de mon désir de m'impliquer et ils mm-hmm. savent très bien que j'ai envie de me réveiller le matin pour me battre pour ce mandat-là. Donc, quand que Quincy m'a approché à l'automne pour me dire, écoute, on a envie d'élargir l'équipe, voudrais-tu te joindre à nous en tant qu'artiste associé, c'était juste c'est le couronnement pour moi, parce que franchement, c'est une compagnie que je trouve tellement prestigieuse et apparemment, ça porte fruit d'être justement, je suis une, comme on dit en anglais, I'm a warrior from the company, je suis une soldate pour le Black Theatre Workshop, j'admire le mandat, j'admire le travail qui a été accompli, puis les possibilités aussi que ça peut amener. Je crois qu'en tant qu'Haïtienne au Québec, souvent, ça m'a pris beaucoup de temps avant de réaliser qu'il y avait une communauté noire anglophone. Mm-hmm. Pour moi, je suis née quand même à Montréal, puis dans ma tête, tous les Noirs de Montréal étaient des Haïtiens qui parlaient français et qui étaient probablement la raison pour laquelle on immigrait ici. Mais éventuellement, quand je suis venue m'installer à Montréal et que là, j'ai commencé à chanter avec le People's Gospel Choir, justement, j'ai réalisé qu'il y avait une communauté noire anglophone francophone, situé complètement à l'opposé. Hein, mais moi, je connais bien Montréal-Nord, Saint-Michel, c'est là que j'habite également. Mais le Little Burgundy, tout ce quartier-là, je ne connaissais pas. Donc, c'est de voir tout le travail qui a été fait par la communauté anglophone et en même temps, de notre côté, la communauté noire francophone qui travaille aussi fort. Puis je me demandais souvent, comment ça se fait qu'on ne se connaît pas plus? Comment ça se fait qu'on ne travaille pas plus ensemble? Donc, je trouve très intéressant de pouvoir être artiste associé, parce que moi, j'amène quand même une voix bilingue. Mm-hmm. J'ai une lecture demain qui va se passer en anglais, mais c'est encore en développement, en anglais et en créole. Mais il y a encore un développement additionnel qui va se passer en français. Et Black Theatre Workshop me soutient toujours dans chacun de mes projets, même avec ma première pièce. Donc, c'est... Je crois qu'il y a un désir de pouvoir vraiment devenir un Montréal, une institution de Montréal, mais de Montréal complet. Actuellement, Black Theatre Workshop, c'est une institution très anglophone et ça doit le rester également pour honorer tout le travail fait par cette communauté-là qui existe depuis tellement longtemps. Mais c'est également une merveilleuse façon de tendre la main à voir, OK, comment est-ce qu'on peut faire des projets bilingues? Comment est-ce qu'on peut faire des projets en français? Parce que... c'est sûr que c'est possible de refaire le même principe en français, mais quand on a déjà un 50 ans de base, d'expérience, et qu'on fait juste continuer à élargir, je crois que ça aide à toute cette communauté-là artistique, racisée, qui veut se reconnaître, qui veut trouver un réseau. Puis c'est ce que le Black Theatre Workshop permet pour moi et que j'espère qu'on va pouvoir continuer à élargir justement l'horizon.
Et dites-moi, comment vous sentez-vous lorsque Quincy Amourer dit que la responsabilité de tout ce qui sera francophone au Black Theatre Workshop, c'est Lydie Dubuisson. Alors, comment vous sentez-vous?
C'est toujours en collaboration.
Je ne sais pas.
Aucun grand Manitou au théâtre. Mais c'est sûr que ça fait chaud au cœur de voir que le travail mis est valorisé. J'ai vécu sous une ombrelle où est-ce qu'on me demandait souvent de parler moins. Et là, on se rend compte que ben, finalement, peut-être que de parler autant, ça porte également fruit. Puis je suis une personne qui est très ouverte, alors je crois que ça donne de l'espoir pour moi et pour le restant de la ville, parce que si en effet je peux avoir une influence sur ce qui se passe en théâtre noir en français, c'est beaucoup de travail,
c'est
un énorme fardeau, mais en même temps, c'est finalement une bonne raison pour moi. Je trouve que ça rend le travail tellement noble, donc
d'accord,
ça me donne de l'énergie.
Et dites-moi, Sanctuary, c'est une discussion féministe entre une adolescente et sa sœur, sa marraine, sa meilleure amie, son pasteur et Dieu. Elle se réfugie dans le sanctuaire de son église, à la recherche de réponses sur son avenir, Alors, quelles sont les questions qu'elle se pose?
Oh, c'est tellement... c'est une pièce qui est complexe, parce que quand moi je l'écris, je la trouve assez simple, et à chaque fois que je la relis et que j'écoute les acteurs travailler dessus, je me rends compte de toutes les couches et les questions qui y sont cachées, mais c'est vraiment le principe de comment faire la différence entre son instinct et sa foi, comment faire la différence entre l'amour qu'on a pour soi-même et l'amour qu'on a pour notre communauté. C'est vraiment des questions qui, qu'on le veuille ou non, sont quand même propulsées vers nos jeunes filles. Je trouve surtout les jeunes filles très rapidement. Parce que quand une jeune fille atteint un certain âge, le 14, le 15 ans, où est-ce qu'elle commence à ressembler à une femme, déjà on la met de côté pour lui laisser savoir que voici maintenant ton fardeau. Voici maintenant que toutes tes décisions vont influencer ta vie d'adulte et ta réputation adulte. Et tout ça arrive très rapidement dans l'adolescence. Et quand on rajoute à ça justement la proximité, donc la pression qui arrive de nos proches, telle sa sœur, sa marraine, le meilleur ami également, c'est cette conversation-là qu'on a pour savoir. Et de se mettre également dans la peau de se dire, avoir simplement juste 15 ans, c'est tellement un âge jeune, mais c'est également un âge où est-ce qu'on les juge énormément. En tout cas, surtout moi, à l'époque à laquelle j'ai grandi et dans l'environnement dans lequel j'ai grandi. Et c'est sûr que maintenant, les gens vont dire « Ah, mais oui, mais on est en 2020, c'est quand même moins. » Et pour moi, mon réflexe, c'est de secouer la tête, de dire « Non, il va toujours y avoir ce système-là beaucoup plus contraignant à l'intérieur d'une société contemporaine. J'ai grandi dans le Québec des années 90 et pourtant j'ai grandi avec des règles qui sont très similaires à l'environnement que je décris dans la pièce.
D'accord.
Donc c'est vraiment... je vais laisser ça...
Non,
c'est vraiment une question de... Pour cette jeune fille-là, de réaliser qu'est-ce que je dois faire de ma vie, d'où viennent les bonnes réponses? Est-ce qu'elles viennent de moi? Est-ce qu'elles viennent de est-elle, de l'autre personne? Quand est-ce qu'on sait exactement sur quel chemin qu'on est et si c'est le bon chemin qu'on a choisi?
D'accord. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez fait le choix d'utiliser plusieurs langues et vous avez inclus le créole. Pour quel motif?
Pour moi, c'est inévitable parce que j'ai eu cette phase où est-ce que je voulais écrire des histoires universelles pour que tout le monde puisse se sentir touché et alouette, mais en même temps, je crois que le créole, dans mes pièces ou peu importe la façon que quiconque veut l'utiliser, ce n'est pas une barrière pour comprendre l'histoire. Au contraire, c'est un cadeau additionnel pour pouvoir informer de quelle est la richesse qu'il faut se trouver ailleurs. Dans le cas de Sanctuary, j'ai un personnage qui, justement, sa marraine, qui est une dame plus âgée avec qui elle a grandi. Et pour moi, c'était évident que, à certains moments, et pour moi, ce personnage-là, c'est une femme haïtienne. Et donc, elle devait avoir le droit de s'exprimer en créole quand elle voulait s'exprimer en créole.
Aussi simple que ça.
Et je crois que dans la culture haïtienne, il y a ce réflexe-là où est-ce que l'enfant ne parle pas nécessairement en créole à la personne plus âgée. Mais la personne plus âgée, elle, s'adresse à la personne plus jeune en créole pour à des moments assez spécifiques. Et ça, c'est très révélateur pour moi. Je trouve que ça donne de la richesse à mes personnages. Et je vais révéler le petit secret, mais... Mireille Métellus est la personne qui fait la lecture pour ce personnage-là et mon Dieu, à chaque fois qu'elle rentre dans le répertoire en créole, moi ça va me chercher d'une façon que je me dis j'ai hâte de partager ça avec les autres qui vont pouvoir avoir accès à cette extra de richesse-là. C'est
D'accord.
pas pour tout le monde qui va pouvoir comprendre ces sections-là, mais je crois que c'est important de m'adresser à ceux à qui je peux m'adresser justement avec ces phrases-là.
Je peux vous dire que vous avez fait un excellent choix, Mireille Métellus, c'est ma cousine en passant, hein.
Mon Dieu, alors c'est dans la famille, hein?
Eh ben voilà. Alors, dites-nous quand est-ce qu'aura lieu le show? C'est très important que les auditeurs et auditrices sachent que le show aura lieu. Allez-y, je vous laisse faire.
Alors, il va y avoir une lecture en ligne demain, vendredi le 15 janvier, à 3h de l'après-midi. Ça va être une lecture en direct via la page Facebook de Black Theatre Workshop. Ça va être également diffusé sur YouTube, sur la page YouTube du Black Theatre Workshop. Pour ceux qui ne savent pas comment se rendre à ni l'un ni l'autre, vous pouvez aller sur le site web du Black Theatre Workshop également, ou est-ce que le lien directement à ma pièce et on peut choisir comment regarder. Et on va également laisser la vidéo sur le site de Black Theatre Workshop et sur le site Facebook et YouTube pour que même les personnes qui n'ont pas le temps de pouvoir le regarder directement à 3h, parce que maintenant on sait, les gens travaillent en ligne, c'est plus comme l'an dernier où est-ce que le grand confinement nous gardait avec rien à faire. Donc les gens, même ceux qui travaillent, après 3h, la pièce va tout de même être disponible pendant quelques semaines en ligne sur la page Facebook et sur YouTube.
Alors, Lydie Dubuisson, ce fut un réel plaisir, un vrai plaisir d'échanger avec vous. J'espère que votre papa a apprécié vous entendre, hein. Et puis, ben, comme on dit si bien dans le métier, merde.
Merci beaucoup, merci pour l'accueil, merci pour l'écoute.
Au plaisir.
Au plaisir, bonjour.
Alors, allons faire un tour en Ouganda avec...